S'interroger sur le mythe de l'Ouroboros, c'est évidemment ouvrir une enquête sur les fondements réels. J'entends par là non pas les fondements idéels des vérités scientifiques ou philosophiques, mais les fondements du monde social, ce par quoi et à quoi tient une société. Or, on n'aperçoit sans doute jamais si bien ces assises réelles qu'au travers des choses qu'elle pose pour vraies ou qu'elle affirme valoir vraiment. Et il m'a donc semblé que valeur et vérité, c'étaient les deux révélateurs de la nature véritable des ancrages que se donne la société. Y a-t-il du valoir absolu et de la vérité, du vraiment vrai, c'est-à-dire des choses à quoi nous pourrions revendiquer de nous ancrer absolument? Les philosophies qui le soutiennent sont assurément plus nombreuses que celles qui le nient. Quand bien même on les suit, on n'est pas dispensé pour autant d'une interrogation adjacente demandant si la vérité pure établit son règne en toute pureté. Et en fait, on sait bien que non, il suffit d'avoir en tête la fin du Gorgias pour se souvenir de quelle violence le prononcé de la vérité peut être environné. Que dire alors des vérités impures, les vérités pratiques, qui sont ordinairement invoquées dans le monde social historique et pour lesquelles la revendication de l'ancrage absolu est d'emblée douteuse, le passage du pur à l'impur étant ipso facto passage du singulier au pluriel, de la vérité aux vérités, et d'un pluriel qui laisse déjà entrevoir tout un monde de lutte. Par exemple, cas numéro 1, la dette. Légitime ou illégitime? Peut-on, et si oui comment, décider en vérité de la légitimité ou de l'illégitimité de la dette? Toute la discussion, en l'occurrence, devrait se situer entre deux pôles. Premièrement, la dette, quelle que soit sa forme, y compris la dette économique donc, est une manifestation de réciprocité qui est la matière même de la vie sociale. C'est pourquoi les mots d'ordre de défaut n'ont rien d'anodin, et qu'il faut y regarder à deux fois avant de prononcer à la légère des annulations en cette matière. Mais deuxièmement, si elle est expression de réciprocité, la dette n'en est pas moins aussi, et même constitutivement, au principe de rapports asymétriques, rapports de pouvoir et de domination, qui peuvent devenir insupportables passé un certain seuil, et alors justifier le défaut, qu'il soit désordonné ou qu'il prenne la forme réglée, soit du moratoire, de la restructuration ou du jubilé. Mais qui peut dire en vérité, c'est-à-dire exempté, où se situe ce seuil? Où est le point d'équilibre de la vérité vraie entre la vérité des créanciers, inscrite dans le droit formel des contrats, et la vérité des débiteurs, portée par la résistance à l'exaction, quand cette dernière menace le droit informel à une vie qui ne soit pas d'écrasante servitude? Ou encore, cas numéro 2, les Tsarpit, les Pierrots noirs. De tradition, tous les ans aux Pays-Bas, les Hollandais fêtent la Saint-Nicolas en se déguisant en Pierrot noir, qui est l'acolyte de Saint-Nicolas, donc en se peignant le visage de noir. Mais les populations immigrées noires font maintenant savoir qu'elles goûtent modérément ces déguisements et ces visages peints en noir à des fins de grotesque, où elles ne voient que caricatures racistes. Et donc, de nouveau, vérité des populations blanches, abasourdie de découvrir qu'une tradition jusqu'ici vécue en toute innocence est maintenant objet de polémique, ou bien vérité des populations noires, qui vivent déjà toutes les inégalités, les exclusions sociales, le racisme ouvert, et pour qui les pierrots noirs ridicules sont la moquerie de trop. D'être légitime ou illégitime, pierrots noirs débonnaires ou racistes, un débat fait irruption, injonction à déterminer une vérité qui s'empare du corps social, et le corps social se met en branle, c'est-à-dire au travail. Que faut-il en penser? De quel côté faut-il être? Et surtout, à quoi pouvons-nous nous raccrocher? Que pouvons-nous invoquer pour savoir ce qu'il faut en penser? Qu'en aurait dit Spinoza, par exemple, précisément citoyen des Provinces-Unies? Gageons que sa réponse n'aurait pas été très différente de celle qu'il fait à Oldenbourg en 1765. Maintenant, je laisse chacun vivre selon sa complexion, et je consens que ceux qui le veulent meurent pour ce qu'ils croient être leur bien, pourvu qu'il me soit permis à moi de vivre pour la vérité. De la dette et des pierres au noir, il semble donc que Spinoza n'ait pas envie de faire l'effort d'en penser grand-chose, et en fait qu'il ne fera pas de différence significative entre les termes opposés de chaque débat. On a souvent fait le reproche à Spinoza d'être le fossoyeur des valeurs, de l'absoluité des valeurs, par conséquent nous interdire tout recours à des arguments de vérité et de fondement absolu pour trancher nos différends. Mais cette lecture de Spinoza est au minimum demi-fautive. Ne réclame-t-il pas Oldenbourg qu'au milieu du tumulte du monde, il lui soit au moins permis à lui de vivre pour la vérité? Qu'il y ait la vérité d'une valeur suprême et absolue, Spinoza ne cesse de le proclamer depuis le traité de la réforme de l'entendement, et toute l'éthique est écrite pour en discerner les voies. C'est la vérité de la connaissance de Dieu par la raison qui est le souverain bien. Mais que faire de cette vérité-là dans notre monde à nous, les ignorants ? La politique, le monde de la servitude passionnelle et des affects passifs, est trop loin de l'empire éthique pour que des connexions s'établissent aisément ou directement entre les deux. On imaginerait difficilement une politique concrète qui serait réglée en tout d'après la norme de la libération et de la béatitude spinozienne. Par exemple, du fordisme ou du néolibéralisme, lequel nous met le mieux sur la voie de la béatitude ? Pas facile à dire. Nous aurons donc du mal à nous prévaloir du souverain bien spinoziste ou de quelque autre pour décider de nos controverses. Et voilà donc le problème. Il y a sans doute des vérités vraies et des valeurs qui valent vraiment, mais elles sont trop lointaines et d'aucun effet significatif dans la vie pratique collective. Si le monde social tient, et il tient, puisqu'il est là et que nous y vivons, ça n'est pas à elle ni par elle. Le monde social, incapable d'un usage pratique de leurs ancrages, qui sont trop lointains pour être opératoires, le monde social donc se sustente par d'autres moyens, nécessairement plus incertains et partant plus instables. On peut donc à la fois conserver, ou disons ne pas écarter, l'idée de vérité sous son acception la plus exigeante, et tenir que cette vérité lui étant inaccessible et inutilisable sous un rapport opératoire pratique, le monde social historique, lui, est le règne des vérités impures. Tenant, quoique sans ancrage, le monde social demeure suspendu en l'air, et c'est le paradoxe assez vertigineux, il faut le dire, de cette autosustentation qui demande à être pensée, pour sortir de l'alternative de la théologie et de l'angoisse. Qu'il ne puisse être fait pratiquement référence à des ancrages externes et absolus, que nous ne puissions nous prévaloir d'une extériorité à laquelle tout raccrocher avec confiance, ne signifie pas que le monde soit voué à la décomposition et au chaos. Alors il est bien certain dans un premier temps qu'on ne voit pas sans inconfort le sol des normativités se dérober sous ses pieds, ni la vérité au singulier dégradée en véridiction au pluriel. Mais c'est une chose de ne pas aimer cette situation et c'en est une autre d'y faire face. Comme l'ont fait par exemple Spinoza ou Pascal, dont on notera d'ailleurs que la parfaite lucidité n'empêche pas qu'ils aient chacun un point sublime auquel tout raccrocher. Pas le même, évidemment. En attendant, dans le monde infrasublime, il faut faire avec l'arbitraire en dernière analyse des valeurs sociales ordinaires, et c'est cela que je propose de nommer la condition anarchique. C'est Rancière qui rappelle très opportunément la différence profonde de l'arché et du kratos, là où le vocabulaire politique est d'une parfaite négligence terminologique. Nous disons oligarchie et aristocratie, mais sans savoir exactement pourquoi, et nous dirions tout aussi bien si on nous l'avait proposé, oligocratie et aristarchie, ou bien démarchie et monocratie. Or, l'arché, c'est le principe premier, l'origine, le fondement. D'où suivront, mais suivront seulement, l'autorité, puis le commandement. Kratos, c'est la force et la domination, donc le pouvoir, mais seulement comme pure puissance exercée. Au sens strict des mots, donc, parler d'anarchie n'est pas autre chose que parler du défaut d'arché, d'un monde sans arché, c'est-à-dire d'un monde privé du fondement absolu auquel raccrocher ses valeurs sociales. Anarchie, lue de cette manière, n'a donc rien d'un concept de science politique, qui aurait pour objet ce mouvement qu'on appelle communément l'anarchisme, et qui devrait en fait s'appeler acratie, conformément à sa visée d'un monde sans pouvoir ni domination. Dans le monde politique ordinaire, il n'y a que des craties. Je dirais même, d'après mon hypothèse, il n'y a que des craties dépourvues d'archi, à savoir des entreprises de domination sans fondement possible. Anarchie est donc le concept non pas d'une science politique, mais d'une axiologie critique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et la grande question d'une axiologie critique, c'est-à-dire d'une théorie de la condition anarchique, c'est alors de savoir comment tient une société qui ne tient à rien. Il faudrait sans doute une enquête généalogique pour comprendre d'où vient que l'âge classique, ses philosophes et ses moralistes, aient développé une si grande sensibilité à cette question et contracté cette disposition particulière à la lucidité des enchanteresses. Ainsi Pascal, philosophe de l'arbitraire fondamental des grandeurs d'établissement, qui est l'autre nom des valeurs sociales. Je cite « En un pays on honore les nobles, en l'autre les roturiers, en celui-ci les aînés, en cet autre les cadets. Pourquoi cela ? Parce qu'il a plu aux hommes. La chose était indifférente avant l'établissement. Il a plu aux hommes, et c'est ce seul bon plaisir qui a tranché entre des options a priori indifférentes. Nous sommes sortis de l'indifférence exemptée par un acte d'établissement dont le bon plaisir a été l'opérateur. Mais peut-on mieux dire l'arbitraire de la valeur et de son institutionnalisation ? Une fois aperçu, cet arbitraire fait nécessairement surgir la question de savoir comment tient et comment se maintient un ordre social à ce point dépourvu de fondement. Et Pascal ne manque pas de la poser. On connaît sa réponse. Un ordre social aussi déficitaire, et j'anticipe un peu sur ce que dira Marc Anspach, ne tient que par la méconnaissance, ou bien par le respect, mais volontariste, des grandeurs d'établissement. Volontariste, c'est-à-dire en connaissance de cause. Je cite « Le peuple honore les personnes de grande naissance, les demi-habiles les méprisent, les habiles les honorent non par la pensée du peuple, mais par la pensée de derrière. » Donc, d'abord le peuple, et la foi du charbonnier, les opinions saines, ensuite les demi-habiles, ce sont les pires, ils sont suffisamment malins pour apercevoir l'arbitraire, mais pas assez pour se retenir de le dire. Le vrai fléau corrosif de l'ordre social, ce sont eux. Enfin, les vrais habiles, qui y voient clair, mais par la pensée de derrière, ajoutée in extremis à la perception de l'arbitraire, retiennent leurs paroles. Eux ont compris que, je cite encore, « la coutume est toute l'équité par cette seule raison qu'elle est reçue. C'est le fondement mystique de son autorité qui la ramène à son principe, l'anéantit. » Et je voudrais, si vous me le permettez, relire cette phrase, car je me demande si je pourrais trouver concentré plus puissant et plus synthétique des questions qui m'occupent ici. « La coutume est toute l'équité par cette seule raison qu'elle est reçue. C'est le fondement mystique de son autorité qui la ramène à son principe, l'anéantit. » Sous la condition anarchique, la méconnaissance, ou bien la connaissance scellée, offre le vrai ciment de l'ordre social. Le principe cohésif de l'ordre social n'est pas à trouver dans des ancrages substantiels de la valeur et de la vérité, mais dans la méconnaissance de l'absence de tels ancrages, telle qu'elle autorise la croyance heureuse, la croyance collective en la valeur de valeurs pourtant sans fondement, la croyance à des valeurs toujours en suspens. Mais comment des valeurs sans fondement peuvent-elles s'établir ? Et comment le groupe peut-il continuer d'y croire si d'aventure la révélation de l'arbitraire venait à faire son chemin et à déchirer le voile de la méconnaissance ? Voilà les deux questions centrales auxquelles Spinoza, je crois, apporte des réponses particulièrement fortes et je pense plus convaincantes que le saut dans l'amour du Christ et du prochain que René Girard envisage comme seul rempart contre la destruction du monde. Alors commençons. Éthique 3.9 Scoli. Nous ne nous efforçons pas vers quelque objet. Nous ne le voulons, ne le poursuivons, ni ne le désirons pas parce qu'il est un bien. Mais au contraire, nous ne jugeons qu'un objet est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le voulons, le poursuivons et le désirons. Ainsi, contrairement à l'opinion commune, la valeur n'est pas une propriété substantielle des choses, mais le produit de nos investissements affectifs et désirants. S'il y a une vérité de la valeur, c'est une vérité externe. Et cette vérité extrinsèque, c'est que la valeur en dit plus long sur celui qui en prononce le jugement que sur la chose jugée. Le bien et le mal ne sont que les transfigurations générales du bon et du mauvais, telles que nous les avons expérimentées lors de rencontres de choses extérieures, et telles que nous les avons alors jugées d'après les variations de notre puissance d'agir. Éthique 4.8 démonstration. En tant que nous percevons qu'un objet quelconque nous affecte de joie ou de tristesse, nous l'appelons bon ou mauvais. Aussi la connaissance du bien et du mal n'est-elle rien d'autre que l'idée de la joie ou de la tristesse, idée qui suit nécessairement de l'affect même de joie ou de tristesse. Par conséquent, dans le monde ordinaire, qui n'est pas celui du souverain bien réalisé, il n'y a pas de valeur, il n'y a que des processus de valorisation. Et ce sont des processus passionnels, gouvernés par les mouvements du désir et les affects de joie ou de tristesse. Ainsi, le désir ne se règle pas sur des valeurs préexistantes, qu'il n'aurait pour ainsi dire qu'à reconnaître. Mais au contraire, ce sont les désirs et les affects qui, par leurs investissements même, sont les instituteurs de la valeur. Bien sûr, dans un second temps, le processus de valorisation accompli et les valeurs instituées, installées en habitude, la conscience ordinaire reprend ses droits, ou plus exactement, prend ses droits, et se met à croire à l'antécédence de la valeur. Il n'empêche, c'est cette vision ordinaire et renversée que la généalogie passionnelle de la valeur remet sur ses pieds, mais au prix par là même de priver la valeur de son antériorité imaginaire, de faire d'elle une chose déterminée et non une chose déterminante, ou disons déterminée avant que de devenir déterminante, et au prix par conséquent de lui retirer toute prétention à être fondatrice. Mais comment passe-t-on des valorisations individuelles aux valorisations collectives, seules constitutives de la valeur socialement établie ? La réponse, paradoxalement, est à trouver dans le traité politique. Paradoxalement, car une lecture superficielle du traité donne à penser qu'il n'y est question, classiquement, que des régimes de gouvernement, problème sans rapport apparent avec celui de la valeur sociale. Or, l'essentiel du traité est ailleurs. Il est dans le concept de puissance de la multitude, dont Spinoza fait le principe constitutif de l'État, et dans lequel je propose de voir plus largement le principe fondamental de l'efficacité du social, et partant de son pouvoir d'autosustentation. Qu'est-ce que la puissance de la multitude et comment se forme-t-elle ? Comme son nom le laisse à penser, la puissance de la multitude est une composition de puissance individuelle. Elle a pour opérateur le mécanisme de l'émulation des affects, central dans la théorie spinozienne de la vie passionnelle, et dont l'énoncé nous est donné en Éthique 3.27. Je cite. Du fait que nous imaginons qu'un objet semblable à nous, et pour lequel nous n'éprouvons aucun affect, est quant à lui affecté d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Ce mécanisme d'imitation par similitude offre son matériau à un modèle de jeunesse du social, auquel Alexandre Matron donne son statut intellectuel le plus juste en le qualifiant de modèle de jeunesse conceptuelle. Le modèle de jeunesse conceptuelle est un exercice purement spéculatif, qui n'a aucune visée de reconstitution historique, tentative tout à fait chimérique, quand il s'agit de cerner un improbable temps zéro de l'institution du social, et contre laquelle Durkheim nous a définitivement vaccinés. Je cite les formes élémentaires de la vie religieuse. Si par origine on entend un premier commencement absolu, la question n'a rien de scientifique et doit être résolument écartée. Il n'y a pas un instant radical où la religion ait commencé à exister, et il ne s'agit pas de trouver un biais qui nous permette de nous y transporter par la pensée. Comme toute institution humaine, la religion ne commence nulle part. Sans visée historique aucune, donc, le modèle de la jeunesse conceptuelle relève d'une expérience de pensée délibérément construite à partir d'un état originel fictif, auquel chercher la moindre correspondance empirique serait tout à fait absurde. Cet état originel reçoit le nom conventionnel d'état de nature, et s'il est essentiellement fictif, c'est parce que le plus souvent, il considère une collection primitive d'individus atomistiques, donnée avant toute interaction, situation susceptible d'aucune réalisation concrète, puisque le social est toujours déjà là, et qu'il n'est pas d'individu qui ne soit socialisé ab origine. Mais bien loin d'être un inconvénient, l'irréalisme de la situation peinte par le modèle de jeunesse conceptuelle est au contraire un avantage, puisqu'il offre l'occasion d'un argument a fortiori. Même en supposant, ce qui ne peut être, que des individus coexistent originellement sur le mode atomistique, leurs interactions, entre guillemets, vont inévitablement conduire, par effet de composition, à des productions collectives qui vont leur échapper, les surplomber et s'imposer à eux. Ainsi, le social naît-il endogènement et jusque d'un impossible état initial de désocialisation. Mais par quel processus exactement ? Par la composition mimétique des affects. Le simple spectacle d'un individu humain quelconque, pourvu qu'il soit affecté, nous affecte immédiatement nous-mêmes, et d'un affect qui n'est pas autre chose que son affect à lui, pour ainsi dire importé en nous par émulation. L'imitation des affects lorsqu'elle se déploie à grande échelle fait alors montre de propriétés puissamment génératives, car de proche en proche, elle produit de remarquables effets de convergence. Les groupes déjà localement homogénéisés interagissent dans un antagonisme qui mobilise les rendements croissants d'adoption. Plus une certaine conception du bien, soutenue par les affects qui font sa force propre d'adhésion, a été adoptée par un grand nombre d'individus, plus sa puissance d'émulation affective est grande, et plus elle se montre capable d'induire de nouveaux ralliements. Ceci jusqu'à ce que le groupe ait entièrement convergé en un affect commun, support par exemple d'une certaine manière de sentir ou de juger. Le groupe se trouve alors rassemblé autour d'une même idée du bien et du mal, du licite et de l'illicite, prélude à son institutionnalisation sous l'espèce du légal et de l'illégal. C'est donc dans cette convergence imitative qu'il faut chercher le mécanisme élémentaire de la jeunesse conceptuelle d'une communauté morale, antichambre de la communauté politique, et en fait le mécanisme de la formation d'un groupe comme groupe, constitué dans l'élection d'une manière commune, qui vient s'imposer à chacun de ses membres, alors qu'aucun d'entre eux ne peut se reconnaître à la moindre part significative ni dans le processus, ni dans son résultat final. C'est donc l'affect commun, ainsi produit, qui en réalité est l'opérateur même de la constitution du groupe comme groupe. Et le groupe se trouve pour ainsi dire dédoublé dans le processus par lequel il a été engendré. D'une part, il est bien, en dernière analyse, l'origine de cette formation de puissance que Spinoza nomme potentia multitudinis, et qui, comme l'indique son génitif, n'a pas d'autres ressources, pas d'autres réservoirs que l'ensemble des puissances individuelles. Mais d'autre part, le groupe est le produit même de la puissance de la multitude, et puis aussi l'objet de son travail réflexif continué. Par quoi il faut comprendre que la multitude est avec elle-même dans un permanent rapport d'auto-affection. La multitude s'auto-affecte, et la potentia multitudinis est l'opérateur de cette auto-affection. Par le nombre des individus que ce processus implique, par le fait que ces individus sont loin de se connaître tous, et même de se voir tous, l'auto-affection de la multitude dépasse de loin ce que les individus, qui sont pourtant les parties constituantes de la multitude, peuvent en saisir et en maîtriser. Aussi ces individus se retrouvent-ils in fine confrontés à des productions qui, quoique les leurs en dernière analyse, leur sont néanmoins méconnaissables et comme étrangères. C'est cette excédence de ce qui s'est engendré par effet de composition à partir de ce que les individus ont cru apporter. C'est cette excédence, donc, qui est le propre du social. Le social est fondamentalement excédence et transcendance, mais transcendance d'un genre très particulier, transcendance immanente. Ainsi, l'affect commun, opérateur de communauté, est ce qui fait être le groupe comme groupe, doté d'une consistance propre par rapport à la multitude informe qui était sa phase en l'état de nature fictif. Au terme du processus restitué par le modèle de genèse conceptuelle, c'est donc comme une transition de phase qui s'est produite, pour ainsi dire un changement d'état de la matière sociale, d'amorphe à consistante, organisée sous l'affect commun. Ce changement d'état est aussi un changement de géométrie. La multitude de la simple collection tenait dans un plan, en lequel étaient jetés tous les individus atomes indistincts. La multitude devenue communauté par le travail de sa propre puissance s'est maintenant adjoint une nouvelle dimension, la verticalité. La vérité géométrique du social, c'est qu'il est une élévation. Bien sûr, si l'on voulait en donner une représentation adéquate, il faudrait sans doute trouver des figures ailleurs que dans le répertoire des formes les plus courantes. Car cette verticalité ne tombe pas du ciel, et la sociologie n'est pas un succédané de la théologie. Le social naît et s'élève bel et bien depuis le plan d'immanence, mais qui se trouve ainsi plié et retourné sur lui-même comme une nappe. C'est donc une singulière figure que dessine la transcendance du social, émergée d'en bas, mais s'élevant au-dessus du substrat qui lui a donné naissance pour le dominer comme un en haut. Le haut procède donc du bas en dernière analyse. Voilà le paradoxe apparent de la transcendance immanente. Mais quoique venu du bas, ce haut paradoxal se présente aux individus, à leur perception et à leur imaginaire, bel et bien revêtu de tous les attributs classiques du haut. Autorité surplombante, communauté d'affection, puissance incommensurable, alors que cette puissance n'est que celle de la multitude elle-même, mais séparée d'elle-même. La vue moderne individualiste, cependant, est incapable de penser cette géométrie-là, qui sera en quelque sorte la géométrie des variétés différenciables, et ne parvient pas à sortir de l'antinomie du vertical simple, soit la transcendance mensongère des prêtres, et de l'horizontal pur, où la métaphysique libérale voudrait faire tenir tout ce que des sujets libres peuvent nouer de rapport. Entre les termes de cette antinomie, l'histoire aurait irrévocablement tranché. Dieu est mort et la verticalité avec lui. Ne resterait donc, entre guillemets, que l'horizontal. Comment parvenir à l'idée que si la première partie de la proposition est vraie, la deuxième ne l'est pas, et ne peut être soutenue qu'au prix d'une monumentale dénégation du social comme verticalité, mais d'un genre très particulier. C'est précisément cette particularité que le point de vue sociologique, point de vue de la transcendance immanente du social, permet de concevoir, et plus distinctement encore s'il s'adjoint le concept de puissance de la multitude, principe même de l'incommensurable immanent. Il n'y a donc pas à se rendre à l'antinomie de la théologie ou du rationalisme contractualiste associatif. La puissance de la multitude est le principe dans lequel le monde social trouve sa force d'autosustentation et l'origine de sa verticalité particulière. Alors, résumons-nous. Premièrement, Les valorisations sont l'effet de jugements formés d'après des affects. Par conséquent, deuxièmement, les valeurs sociales, comprises comme valorisation collective, comme valorisation commune, procèdent d'affects communs. C'est parce qu'ils ont été identiquement affectés par une certaine chose que les individus jugent identiquement qu'elle est un bien ou un mal. Troisièmement, cette identité d'affection n'a rien de natif ou de spontané. A priori, les individus jugent différemment selon la variété de leur complexion. Ils ne sont déterminés à juger identiquement que sous l'effet d'une certaine formation de puissance collective qui est un pouvoir d'affecter tous, la puissance de la multitude. Quatrièmement, la puissance de la multitude désigne le fond de la productivité du social, du travail que la société ne cesse de faire sur elle-même. En d'autres termes, les auto-affections de la multitude, ce processus où la multitude est à la fois sujet productif et objet nécessairement aliéné de et à ses propres productions. C'est donc la puissance de la multitude comme pouvoir d'affecter tous qui donne aux valeurs et aux vérités pratiques leur force propre d'autorité, force qui est celle même du social, que Durkheim, en une expression frappante, avait d'ailleurs nommée la puissance morale de la société, et à laquelle la potentia multitudinis spinozienne, mais décisivement réélaborée par Alexandre Matron, vient donner son concept. Il faut alors faire deux ajouts de grande importance pour que cette théorie de l'autosustentation de la société par la puissance de la multitude ne soit pas trop incomplète. Il faut dire en premier lieu que la puissance de la multitude ne se laisse qu'exceptionnellement observer sous la forme pure, massive et surtout immédiate qu'elle prend dans le modèle de genèse conceptuelle. L'état courant de la puissance de la multitude, c'est la cristallisation institutionnelle. La puissance de la multitude produit des institutions dans lesquelles elle se fige et s'exprime momentanément. Momentanément, car comme on sait, les institutions sont sujettes à crise et à transformation, lesquelles ne sont pas autre chose que des déplacements et des métamorphoses de la potentia multitudinis. En d'autres termes, la multitude n'est que rarement avec elle-même dans un rapport d'auto-affection immédiate. Le plus souvent, la puissance de la multitude est captée par un intermédiaire, une institution ou même un homme, qui réaffecte la multitude, ou pour mieux dire encore, qui l'affecte de seconde main. Et la multitude est alors avec elle-même dans un rapport d'auto-affection médiate. Inutile de dire que la médiation obscurcit un peu plus encore la conscience déjà faible que la multitude prenait d'elle-même et de ses propres productions, puisque par une troncature imaginaire spontanée, c'est la médiation ou le médiateur lui-même, l'institution ou le grand homme, qui est vu comme l'origine de ce pouvoir d'affecter tous, et par suite révéré comme une puissance suprême, alors que par définition, la médiation n'est que le point de transit et de concentration de la circulation ascendante-descendante de la potentia multitudinis. Et au travers des médiations institutionnelles de sa propre puissance, la multitude devient un peu plus étrangère encore à elle-même. On aperçoit en tout cas incidemment combien le traité politique de Spinoza nous offre la matière non pas seulement d'une théorie des régimes de gouvernement, mais bien plus largement d'une théorie générale des institutions sociales. Les institutions sont des captures et des cristallisations de puissance de la multitude, comme l'atteste ce fait qu'elles sont des entités sociales disposant assurément d'un pouvoir d'affecter. Les institutions, en effet, ont le pouvoir de faire quelque chose aux individus. Il faut le redire de manière très simple, de faire quelque chose aux individus et par suite de leur faire faire quelque chose de particulier. S'arrêter au feu rouge, payer ses impôts, déclarer son identité, etc. etc. Or, le pouvoir d'affecter, le pouvoir de faire quelque chose à quelqu'un et subséquemment de lui faire faire quelque chose, c'est la définition même de la puissance de Spinoza. Par conséquent, si les institutions ont ce pouvoir identiquement sur un grand nombre d'individus, c'est qu'elles disposent d'une puissance propre et même d'une puissance de grande échelle, c'est-à-dire qu'elles ont capté une partie de la puissance de la multitude, elles affectent les individus d'un affect commun. Pour faire image, on pourrait donc dire que la forme institution est l'un des états possibles, et en fait le plus courant de la puissance de la multitude, l'un des états de la matière passionnelle collective. Mais des états, il y en a d'autres possibles. Par exemple, l'état foule, que Jean-Pierre connaît bien. Ou bien l'état grand homme, c'est-à-dire l'état concentré en une seule personne, devenu homme charismatique, porteur singulier de capital symbolique. Le pouvoir symbolique au sens même de Bourdieu, c'est bien un pouvoir d'affecter, un pouvoir de faire quelque chose aux autres, les impressionner, et donc de leur faire faire quelque chose. Croire ceci, juger comme cela, valoriser de telle manière, etc. Le pouvoir symbolique n'est donc pas autre chose qu'une manifestation de puissance au sens le plus spinoziste du terme, mais non pas la puissance de l'individu dit charismatique lui-même, mais une puissance très supérieure, la potentia multitudinis, qui l'a capté, ou bien qui s'est investi en lui, et qui opère à travers lui. La puissance de la multitude ne cesse donc pas de produire les formes institutionnelles et structurelles au travers desquelles elle médiatise ses propres opérations. Et si le monde de la puissance de la multitude est d'emblée d'une verticalité très particulière, puisque je le redis, cette verticalité descendante émane en fait du bas, il est au surplus d'une verticalité hautement médiatisée, ramifiée, stratifiée, buissonnante et différenciée. La verticalité de la médiation institutionnelle généralisée. Mais, et c'est le deuxième point, même la stabilisation relative que produit l'État institutionnel ne peut conjurer complètement l'incertitude qui vient de l'autosustentation même, c'est-à-dire de l'absence d'extériorité et d'ancrage absolu. Les valeurs et les vérités auxquelles la société accroche son existence collective sont toujours fragiles et révisables, et ceci du fait que ces ancrages auxquels elles se confient, c'est la société elle-même qui les a produits. Cette fragilité constitutive de la valeur et dans son sillage de la vérité pratique, politique, menace en permanence l'affect commun de fractionnement. C'est que la potentia multitudinis n'offre qu'exceptionnellement une figure unanimitaire, fusionnelle et indifférenciée du collectif. Et la multitude n'est qu'exceptionnellement rassemblée dans un unique affect commun. Tout au contraire, sa condition ordinaire est telle d'être fragmentée en courant antagoniste. Spinoza ne manque pas de le rappeler à propos de l'État même, la mère de toutes les institutions, la capture institutionnelle majuscule de la potentia multitudinis. Le droit du glaive, dit-il, c'est-à-dire la puissance souveraine de l'État, est la puissance de la multitude ou de sa partie la plus forte. Restriction qui suggère que la multitude est toujours à même de se diviser en fractions opposées, en multitudes partielles, et que de ce fait, l'autorité de l'État n'est jamais définitivement assurée, puisque rien ne peut exclure que vienne à se former une fraction de multitude séditieuse. Eh bien, il en va de même de n'importe quelle institution et aussi de n'importe quelle valorisation, c'est-à-dire de n'importe quelle capture de potentia multitudinis. Donc, en particulier, de n'importe quelle vérité politique se prévalant d'une valeur. En effet, comme on sait, les choses à valoriser sont en permanence entourées d'assertions valorisatrices conflictuelles, auxquelles correspondent des formations d'affects communs partielles et antagonistes qui clivent la multitude. Comment le spinoziste n'en aurait-il pas hautement conscience? Il est, entre autres, une agonistique de la puissance. Aussi, les confrontations de puissance ou de rassemblement de puissance se règlent-elles très simplement, selon la loi de la puissance la plus grande. Éthique 4.7, un affect ne peut être réprimé ni supprimé, si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Dans un conflit de valorisation, c'est donc l'affect commun partiel le plus puissant qui aura le dernier mot et prononcera la valorisation majoritaire. Ainsi donc, de même qu'il n'y a pas de valeur, mais seulement des processus de valorisation, de même en politique il n'y a pas de vérité, mais seulement des tentatives concurrentes de véridiction. Et la politique est nécessairement une axiomachie. Il n'y a pas de lutte pour la vérité et la valeur, il y a des vérités et des valeurs en lutte. Ce sont en dernière analyse des luttes passionnelles. Non pas qu'il faille se figurer par là un retrait complet du logos et un pur chaos d'affect, mais parce que contre les antinomies trop simples de l'idéal et du passionnel, il faut plutôt saisir que les idées pures ne prennent vie, ou plutôt n'existent dans nos vies qu'environnées d'affects, et même portées par des affects. Car l'intensité avec laquelle nous adhérons à nos idées n'est rien d'autre que celle des affects que nous y investissons. C'est pourquoi la politique des idées, la politique des vérités, est un ars affectandi. Convaincre, rallier à sa vérité, c'est produire de l'adhésion, c'est-à-dire des élans affectifs, puisque les affects sont ceux-là même par quoi nous tenons à nos idées, ce par quoi véritablement nous les faisons nôtres, et d'ailleurs par quoi elles ont des effets sur nous, au lieu que nous les regardions comme de purs contenus idéels, qui en tant que tels sont sans force et nous laisseraient indifférents. La communication, la propagation des vérités, se fait donc par la voie du ralliement affectif. Et dans cette affaire, comme dans toute autre, ce sont les gros bataillons passionnels qui l'emportent sur les petits et décident de l'issue des axiomachies. Les gros bataillons passionnels, ça ne veut pas forcément dire les plus nombreux. Ça peut aussi vouloir dire les mieux armés. c'est-à-dire les plus capables d'avoir accès à et de mobiliser des puissances juridictionnelles déjà établies, déjà reconnues comme faisant autorité. En d'autres termes, déjà investies, on pourrait même dire irriguées, par un courant de potentia multidunis. Par exemple, faire intervenir un expert ou un universitaire dans un débat, c'est ipso facto mobiliser l'autorité préconstituée de l'institution université, elle-même adossée à l'institution État. Recevoir le soutien d'une grande voix vivante ou se prévaloir d'une grande voix morte, c'est exploiter un flux de puissance de la multitude déjà là, puisque par définition, la grandeur des grandes voix, mais toute grandeur sociale en fait, n'est pas autre chose en son fond qu'une capture réussie ou bien une élection de la puissance de la multitude. Alors nul ne sait comment se dénoueront les affrontements véridictionnels, par exemple autour de la dette ou des pierrots noirs. Mais l'on sait qu'il y aura un gagnant, et que si le gagnant l'emporte suffisamment pour réduire la véridiction opposée au statut de minorité négligeable, alors on dira qu'il est une vérité. Ainsi tranche l'histoire dans le monde de l'autotranscendance. Une histoire dont on dit à raison quel est le point de vue des vainqueurs, et qui établit comme vérité l'un des compétiteurs véridictionnels. Contingence qu'on aperçoit vraiment qu'en se livrant à des expériences de pensée contrefactuelles. Car il est de nombreuses situations où il est aisé d'imaginer que l'histoire aurait pu décider autrement, et la puissance de la multitude consacrer autre chose. Et il suffit alors de regarder de près comment les événements se sont concrètement déterminés, comment le débat public a pris telle ou telle orientation, de quelle manière et sous l'effet de quelle poussée décisive il a basculé, pour se convaincre que c'est rarement le travail majestueux de la vérité qui se laisse découvrir en ces occasions. À défaut de la vérité tout court, nous avons donc la vérité de la véridiction. C'est l'intensité de nos adhésions affectives qui nous donne ce succès d'année qu'est le sentiment de la vérité. À l'inverse, la suspension conjecturale, elle, n'est que le reflet en nous d'une situation affective disputée, où sont en balance serrées des affects opposés relativement à une chose dont nous avons à décider axiologiquement. Ce sentiment de la vérité reste donc fragile tant qu'il ne reçoit pas le soutien d'une situation affective bien tranchée, et notamment tant qu'il n'est pas partagé. C'est pourquoi les hommes croient sans réserve détenir la vérité lorsque cette adhésion devient collective. Et pour cause, le passage au collectif n'a-t-il pas précisément la propriété de polariser et de démultiplier les intensités passionnelles? En tout cas, tous les protagonistes de l'axiomachie, croyants ordinaires de la vérité, engagés dans des luttes de véridiction, jouent scrupuleusement le jeu, auquel ils versent très sincèrement toute leur activité de justification. Que dans le monde social la vérité se dégrade en véridiction n'entraîne pas que les efforts de justification ne soient que des simulacres. Ils sont aussi au moins des symptômes ou des indices. Indices notamment que la condition anarchique ne peut dégénérer en pures assertions unilatérales et que l'absence de fondement n'autorise pas pour autant n'importe quel coup de force. Justifier, comme l'ont souligné les théoriciens des conventions ou de l'économie des grandeurs, c'est toujours monter en généralité et par là se prévaloir de la généralité. Il n'y va pas seulement d'un petit stratagème destiné à grossièrement transfigurer ses intérêts particuliers en intérêt général, même s'il ne faut pas méconnaître cet aspect-là des choses. Plus profondément, et cette fois c'est vers Bourdieu qu'il faut se tourner, ce détour transfigurateur est une sorte d'hommage que le vice rend à la vertu. Car justifier, en revendiquant d'avoir pour soi la généralité, c'est reconnaître implicitement les égards qu'on doit au groupe, puisque par définition, le général est le point de vue du non-particulier, c'est-à-dire le point de vue du groupe. Ainsi, le groupe oblige, et pour de multiples raisons. En abusant légèrement de l'hypostase, on pourrait dire d'abord qu'il ne tolère pas, en tout cas pas au-delà d'un certain point, que des menées particulières se laissent entièrement libre cours unilatéral, puisque c'est son existence même comme groupe qui pourrait être mise en péril par de tels libres cours sans frein et quasiment sans phrase au-delà de leur seule énonciation assertive. Aussi, le groupe les soumet-il à des contraintes de forme, et notamment celle d'échafauder une démonstration a minima pour prouver, entre guillemets, que libre cours particulier, ils sont néanmoins à l'avantage de tous. Mais il y a une autre raison de rendre hommage au groupe et de déférer à ses réquisites de justification. Une raison confusément stratégique qui, cherchant à se mettre du côté du groupe, cherche par là même à mettre le groupe de son côté. Et ce faisant, identifie le groupe comme le réservoir ultime de la puissance sociale. Avoir pour soi le groupe et la force du groupe, c'est bien rendre sa cause irrésistible. Car voilà ce dont ce savoir pratique à l'intuition. La société tout entière, ce grand chaudron d'affect, est l'instance axiogénique par excellence, la puissance véridictionnelle ultime. Et cette intuition voit juste. C'est la puissance de la multitude qui tranche dans l'indifférencié de la condition anarchique. Car la potentia multitudinis est l'opérateur de toute morphogénèse sociale. Pourvu qu'elle soit considérée chaque fois en ses cristallisations et ses médiations institutionnelles. Elle livre en effet le principe fondamental de tous les faits d'efficacité des normes sociales, de tous les faits de valeur et d'autorité véridictionnelle. Cela même avec quoi Durkheim, une fois encore, soutient finalement toute sa sociologie, la puissance morale de la société. Huber et Mauss ne sont pas loin non plus de cette vérité. Je les cite. Si les dieux, chacun à leur heure, sortent du temple et deviennent profanes, nous voyons par contre des choses humaines mais sociales, la patrie, la propriété, le travail, la personne humaine, y entrer l'une après l'autre. Les idoles changent et se succèdent, nous disent-ils donc. Mais ce qui demeure, c'est le temple, ou disons la forme temple. Ainsi le religieux, pour Huber et Mauss, offre-t-il le fond du social. Mais on serait tenté de franchir un pas de plus. Et là, j'en reviens à la controverse entre Lévi-Strauss et Durkheim et Mauss évoquée par Lucien Scubla à l'instant. Car la puissance morale de la société, dont le religieux constitue sans doute une manifestation canonique, cette puissance est en elle-même générique et conceptuellement antérieure à sa déclinaison religieuse. C'est la puissance de la multitude. Par exemple, Mauss parle de l'origine religieuse de la monnaie. Historiquement, peut-être, mais conceptuellement, non. Conceptuellement parlant, la monnaie, c'est-à-dire le fait de l'autorité sociale du signe monétaire qui fait son acceptation comme équivalent général. Conceptuellement parlant, donc, la monnaie n'a pas d'origine religieuse. Il faut plutôt dire que le fait monétaire est homéomorphe au fait religieux, en cela que l'un et l'autre ne sont que des déclinaisons du fait social fondamental, en quoi consiste la potentia multitudinis. Sans trop vouloir céder au charme discutable du calembour, on pourrait donc dire que la puissance de la multitude, c'est l'informe élémentaire, non pas de la vie religieuse, mais de la vie sociale tout court. La force qui a le pouvoir de donner forme à toute chose dans le monde social, sous les espèces de la valorisation, de la véridiction et de la normation. Tout ce qui arrive à la société vient de la société, et lui vient par auto-affection, médiate ou immédiate. La manière dont elle trace son continuum originel, dont elle différencie son indifférencié, dont elle brise ses symétries, dont elle fabrique de l'anisotrope avec de l'isotrope, du polarisé avec de l'uniforme. Toutes ces choses sont le produit du travail que la multitude fait sur elle-même et qui en même temps la sépare d'elle-même. Pourvu donc qu'on lui donne le sens faible de la véridiction, la vérité pratique, vient toujours de la société et elle est toujours l'effet de sa propre puissance. C'est la société qui dit la vérité à son propre sujet, qui engendre ses propres enjeux axiomachiques et qui les tranche. De sorte que, par une ultime contraction métonymique, on pourrait dire de la vérité exactement ce que Durkheim dit de Dieu. La vérité, c'est la société. C'est là cependant une vérité de la véridiction que les croyants refusent de toute leur âme, car ils redoutent qu'elle ne les prive définitivement du bonheur de croire. Entre un souverain bien inaperçu, ou alors inaccessible, et des biens ordinaires sans fondement, il est vrai que la société ne contemple pas sans angoisse sa condition anarchique. Si en effet l'objectivité sociale n'est pas préconstituée en extériorité, mais d'émanation interne et de morphogénèse endogène, alors elle est capable de se refermer sur virtuellement n'importe quel contenu. A priori, n'importe quelle chose peut faire monnaie, n'importe quel support liquidité financière, n'importe quelle prescription valeur morale, n'importe quel énoncé vérité admise. Quel gouffre la conscience de cet arbitraire n'ouvre-t-elle pas? Je l'ai dit, tous les grands lucides de la condition anarchique ont exprimé leur vertige et chercher un point sublime auquel raccrocher le monde. Pour Pascal, le Christ à titre principal est le réfrénement de la parole lucide pour le reste. Pour Spinoza, le souverain bien de la béatitude, c'est-à-dire de l'accès à Dieu par la connaissance du troisième genre. Mais la société est bien en peine d'accéder à ces solutions-là. Et cependant, elle n'est pas vouée à la perte, contrairement à ce que le biais scolastique et intellectualiste d'une certaine lucidité porte à prophétiser. Car les groupes, eux aussi, s'efforcent pour persévérer dans leur être, et autant qu'il est en eux, lutte contre les forces de la dissolution. Pour ceux que cette hypostase du groupe effraie méthodologiquement, j'indique, mais trop brièvement, qu'il en va chez Spinoza des corps collectifs et des corps sociaux comme des corps humains, très improprement dit individuels d'ailleurs, alors qu'ils sont notoirement divis. Le conatus ne suppose aucune instance de commandement central, gouvernant consciemment l'effort de la persévérance. Celui-ci est une manifestation de la puissance propre du corps lui-même, du corps comme corps, en son entier. Il s'ensuit que les expériences politiques d'assomption intégrale et conséquente de la condition anarchique sont trop chargées de périls désintégrateurs pour ne pas faire l'objet de violents rejets, et de ces rejets qui procèdent de l'affirmation des enjeux vitaux de la persévérance collective en l'occurrence. Le Caligula de Camus, par exemple, qui s'engage dans cette voie de la folie rationnelle ou demi-rationnelle, en payera le prix. Car il est seul à vouloir prendre au sérieux, et surtout jusqu'au bout, le formel pur de la transcendance immanente, sa totale vacuité substantielle et l'arbitraire qui lui est coextensif. Tout autour de moi est mensonge, et moi je veux qu'on vive dans la vérité, dit-il. Mais la vérité de Caligula, c'est la métavérité des véridictions ordinaires frauduleuses, dans lesquelles il a décidé que ses sujets ne trouveraient plus refuge. Et justement, ajoute-t-il, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Contre Caligula, le Conatus de la société parle par la voix de Kéréa. Je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut en une seconde entrer dans la réalité. Kéréa, pourtant, ne se raconte pas d'histoire. Il sait le fond de rationalité de la position de Caligula. Il est même très près de le partager. S'adressant aux patriciens que Caligula maltraite à loisir, voici d'ailleurs ce qu'il dit de ce dernier. Il transforme sa philosophie en cadavre, et pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection. Comprenez qu'il ne s'agit pas de prendre le parti de vos petites humiliations, mais de lutter contre une grande idée dont la victoire signifierait la fin du monde. La seule différence entre Caligula et Kéréa, c'est donc la conséquence. Kéréa fait le choix de l'inconséquence, parce que c'est l'inconséquence qui sauve du chaos. Mais comment peut-on faire le choix de l'inconséquence et croire décisoirement? Poser la question en ces termes est peut-être le plus sûr moyen de la former en insoluble paradoxe, et de passer à côté des processus réels de la croyance, telle qu'elle peut sustenter un ordre axiologique. Et c'est ici qu'il faut en revenir une fois encore à l'idée que croire, et même très généralement adhérer, est moins affaire d'un mouvement pur de l'entendement que de processus affectifs. La croyance est davantage qu'une idée, davantage que son contenu idéal. La croyance, c'est une idée qui fait de l'effet. Croire, adhérer, c'est-à-dire se rapporter à des idées d'une manière qui détermine effectivement des mouvements de corps, c'est fondamentalement une affaire d'affect. Or, précisément des affects, la société n'arrête pas d'en produire. Au fond de l'adhésion aux vérités et aux valeurs engendrées par autotranscendance, il n'y a nul mouvement de l'entendement, encore moins décisoirement arrêté, paradoxe définitivement insoluble, mais un décisionnisme des affects, machinal et corporel. Et c'est la puissance des affects qui nous aide à faire comme si, qui nous aide tellement bien d'ailleurs que la plupart du temps nous y croyons pour de bon. Car nous dit Spinoza, la raison est impuissante à réprimer les affects. Éthique 4.14, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie, mais seulement en tant qu'elle est considérée comme un affect. Cette impuissance de la raison, généralement trouvée affligeante, a donc parfois quelques bonnes propriétés. En l'occurrence, celle de ne pas nous précipiter dans la dérédiction, quand bien même l'arbitraire de la condition anarchique nous est rationnellement mis sous les yeux. Et la société, ce grand réservoir d'affect, cette grande machine affectante, est à elle-même, par là même, le garant de sa relative tranquillité axiologique. Contre l'impuissante vérité de la condition anarchique, telle que la raison peut parfois nous la faire apercevoir, et telle qu'elle n'affecte vraiment que ceux qui sont disposés à l'être, à savoir les intellectuels, et encore, c'est la force de nos affects qui décide de nos adhésions. Et selon un mécanisme dont Spinoza a montré la généralité, nous vivons le plus souvent nos partis pris dans l'ignorance des causes qui les ont déterminées, ignorance tout à fait propice à les vivre sans trop de réserve. C'est pourquoi il n'y a rien de bien mystérieux à ce que les sociétés expulsent à toute force les Caligula, ni d'incompréhensible à ce qu'elles tiennent, quoique ne tenant à rien. Elles tiennent par la force de leur activité permanente d'auto-affection. La potentia multitudinis, les auto-affections de la multitude, et les affects communs qu'elles ne cessent de produire, sont le fond de la condition anarchique, de sa résolution auto-transcendante et de sa viabilité paradoxale. De sorte que la société, non pas ancrée, mais engagée dans la production continuée de son autosustentation, peut dire avec Henri Michaud, « Je me suis bâti sur une colonne absente ». Je vous remercie.